Bien, je rappelle les prochains séminaires. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Johannes Sodig du laboratoire Café à Bruxelles, qui va nous parler de collision ultra-froide et condensation de Bose-Einstein, le cas du césium. La semaine prochaine, le 27 octobre, ce sera Rudolf Grimm, professeur à l'université de Heidelberg, qui nous parlera de Novel Dipole Force Atom Traps. Le 3 novembre, ce sera Pierre-Jean Haché, du laboratoire Café à Bruxelles, qui nous parlera de RMN et IRM avec hélium-3 polarisé, mesures physiques et perspectives d'application clinique en imagerie des poumons. C'est une récente application de la RMN des gaz pompés optiquement. Enfin, le 10 novembre, à 11h, ce sera Martin Weiss du Max Planck à Garching pour l'optique quantique qui nous parlera de Cold Atoms in Periodic Light Fields, New Methods in Atom Optics. Bien, alors, je vous rappelle ce que nous avons, très brièvement, les résultats essentiels que nous avons obtenus la semaine dernière. Vous rappelez qu'à suffisamment basse énergie, on peut se contenter uniquement de considérer l'onde S, parce que c'est uniquement dans l'onde S que les atomes peuvent s'approcher suffisamment près les uns des autres pour ressentir l'effet du potentiel. Dans les ondes P, D, F, ils sont trop loin. Et donc on peut se limiter à l'onde S d'énergie E égale h bar de K2 sur 2 mu égale h bar de K2 sur m. Si on appelle dans ce cas-là la fonction d'onde totale dans l'onde S si K de R égale 1 sur R UK de R, où UK de R est la fonction d'onde radiale, UK de R obéit à l'équation différentielle du second ordre U seconde K de R plus K2 moins U de R UK de R, où U est relié à V par simplement un coefficient de proportionnalité, V égale h bar 2 sur m U. Et la solution de cette équation, d'une part satisfait à la condition aux limites UK de 0 égale 0 de manière que cette fonction soit régulière à l'origine, ne diverge pas, et d'autre part, à grande distance, quand on est en dehors de l'action, de la zone d'action du potentiel, quand on peut négliger U de R, et qu'on a l'équation U seconde plus K de U égale 0, à ce moment-là, elle se comporte comme un sinus, sinus KR plus delta 0 de K, où delta 0 est un déphasage de l'onde S qui dépend évidemment de K, et qui est nul si U égale 0. Puisque si U égale 0, on aura une sinusoïde qui part de l'origine, donc elle doit être de la forme sinus KR. Alors, la semaine dernière, je vous ai donné deux figures qui sont très importantes. La première, celle qui représente la fonction d'onde radiale. Ah, je vais faire ici maintenant, puisque j'ai pas de... Voilà la fonction d'onde radiale, qui s'annule bien à l'origine, qui oscille plus ou moins dans le potentiel, et puis qui, à grande distance, devient une sinusoïde. Et j'ai introduit donc une fonction très importante, qui est ce qu'on appelle la fonction prolongée, VK de R, qui coïncide avec UK très loin, et qui garde la même forme analytique mathématique pour tout R. Donc c'est une fonction qui est de la forme VK de R égale C sinus KR plus delta 0 de K. Donc ça c'est vraiment une sinusoïde, la courbe rouge. Et vous voyez qu'elle coupe l'axe des ordres des abscisses R en un point qui a pour abscisse RP égale moins delta 0 de K sur K, quand j'annule l'argument du sinusoïde. Et par définition, ça c'est important, la longueur de diffusion, c'est la limite quand K tend vers 0 de l'abscisse de ce point, c'est donc la limite de moins delta 0, moins delta K0, de moins delta 0 de K sur K. C'est ça par définition la longueur de diffusion. Si on regarde ce que devient cette courbe quand K tend vers 0, la sinusoïde a un vecteur d'onde de plus en plus, une longueur d'onde de plus en plus grande en dehors du puits, et elle tend vers une ligne droite. Et quand on est à la limite K tendant vers 0, on a deux fonctions très importantes pour tout ce qui nous occupe aujourd'hui. La fonction radiale d'énergie nulle, qui est donc une fonction qui part de 0, comme l'autre, qui oscille dans le puits de potentiel et puis qui, en dehors du puits de potentiel, est une ligne droite. Et la fonction V0 de R, la fonction prolongée pour K égale 0, c'est l'asymptote de la courbe précédente, c'est donc aussi une ligne droite qui coupe l'axe des abscisses maintenant en un point dont l'abscisse est maintenant vraiment A. Il n'y a plus besoin de tendre la limite, on est à K égale 0. Donc l'équation de cette droite, c'est C' R-A, où C' est une constante de normalisation. J'ai introduit aussi, la semaine dernière, une autre grandeur physique importante, qui est la longueur, la portée effective, RE, et qui est définie de la manière suivante. J'ai redessiné ici, pour K différent de 0, la fonction radiale en violet UK et la fonction prolongée VK en rouge. Et j'ai choisi pour VK la condition de normalisation que VK de 0 est égal à 1 pour R égale 0, auquel cas VK de R s'écrit sinus KR plus delta 0 de K sur sinus delta 0 de K. Notant en passant que cette définition n'est correcte que si delta 0 est non nul. Et UK de R, lui, part toujours de 0. Quand K égale 0, j'ai deux fonctions V0 et I0 avec la même normalisation. V0 passe par 1 pour R égale 0. Donc V0 c'est 1 moins R sur A. Et U0 est ici, ça tend vers cette asymptote. Et l'intersection de cette droite avec l'axe des R, c'est A. Et en faisant quelques calculs sur ces deux fonctions, qui reviennent en fait à utiliser ce qu'on appelle le théorème du Wronskien, j'ai établi une formule importante. D'abord j'ai introduit une quantité qu'on appelle la portée effective du potentiel, qui est RE égale 2 somme de 0 à l'infini de dr V0 carré moins U0 carré de R, dr. Et j'ai montré que si on prend cette définition, à ce moment-là, il y a une relation intéressante qui permet de voir comment le déphasage dans l'onde S, delta 0 de K, varie avec l'énergie, c'est-à-dire varie avec K. Et j'ai trouvé que K cotangent de delta 0 de K à la limite où K est petit, et de la forme moins 1 sur A, plus un terme moins K2, dont le coefficient, c'est justement la portée effective 1/2 de RE. Équation qu'on peut encore écrire en passant de la cotangente à la tangente. Tangente de delta 0 de K égale, à peu près égale pour K tendant vers 0, à moins AK, plus un terme en K3, moins 1/2 de RE à 2K3, et vous voyez que tangente delta 0 sur K, à la limite où K tend vers 0, delta 0 est tout petit, tangente delta 0 c'est de l'ordre de delta 0, et je retrouve delta 0 moins delta 0 sur K, qui tend bien vers A quand K tend vers 0. Enfin, j'ai étudié le cas intéressant où le potentiel admet un état lié très proche de l'énergie nulle, donc très faiblement lié, avec une extension spatiale donc extrêmement grande, et j'ai montré que dans ce cas-là, la longueur de diffusion est à peu près égale à l'extension spatiale de l'état faiblement lié. Enfin, dernier point, je suis revenu à l'amplitude de diffusion, qui est l'objet important dans la théorie des collisions, qui est F de K, et j'ai montré que F de K, pour K suffisamment faible, ça avait la forme moins A sur 1 plus IKA, moins 1/2 de RE K2A, donc toute la diffusion à K petit peut s'exprimer en fonction des deux paramètres, longueur de diffusion A et portée effective RE. On a donc deux paramètres pour caractériser l'amplitude de diffusion, et ça sera intéressant parce que quand on aura un modèle de potentiel simple par lequel on remplace le vrai potentiel qui est trop compliqué à calculer, on calculera A et RE pour ce potentiel modèle, pour ce pseudo-potentiel, et on pourra comparer avec le vrai potentiel qui obéit à cette équation. Alors aujourd'hui, je continue donc ce chapitre, et je vais essayer de tourner ça pour qu'on puisse éclairer le tableau du milieu. Voilà. Je vais passer donc maintenant, il m'a semblé qu'il serait intéressant de prendre un certain nombre d'exemples simples, concrets, de barrières de potentiel, ou de puits de potentiel carré, de manière à illustrer concrètement sur un exemple simple, où les calculs peuvent être faits analytiquement, les notions générales que j'ai introduites la semaine dernière. Et en particulier pour préciser un point important dans tout ce champ de recherche, qui est la notion de résonance à énergie nulle. Donc je vais étudier successivement les barrières de potentiel carré et les puits de potentiel carré. Et je commence donc par les barrières de potentiel carré. c'est-à-dire qu'on prend en fonction de R pour le potentiel, pardon, pour V de R, on prend une barrière de potentiel carré de largeur V0 et de hauteur V0. Et on pose V0 égale H bar 2 K2, K0 2, sur 2 mu, c'est-à-dire sur M. Bon, si on pose cette quantité-là, l'équation qui est ici, je vais la réécrire maintenant, elle devient U seconde K de R plus K2 moins K02 U K de R égale 0 pour R plus petit que B et U seconde K de R plus K2 U K de R égale 0 pour R supérieur ou égal à B. Quand le potentiel est nul, ici, donc ce terme est nul, et les deux équations sont là. Évidemment, la condition initiale, UK de 0 égale 0. Alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, ce qui est important, c'est la solution d'énergie nulle. Pour avoir la solution d'énergie nulle, je fais K égale 0 dans cette équation, et j'obtiens immédiatement, donc pour K égale 0, U0 de R. Alors la solution de l'équation U seconde K moins K02, UK c'est le cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique de K0 de R. Seul le sinus hyperbolique s'annule à l'origine, donc U0 de R, c'est C sinus hyperbolique de K0 de R, pour R plus petit que B. Et quand on est en dehors de l'action du potentiel, quand K0 est, on peut négliger K0, à ce moment-là c'est une U0 de R. C'est D, R, c'est une fonction linéaire, et par définition de la longueur de diffusion, c'est D, R moins A pour R supérieur à B. Voilà donc la solution analytique trouvée. Et plutôt que de la discuter en détail, je vais revenir à des petits dessins et essayer d'introduire des idées qui sont valables, quel que soit le potentiel, pourvu qu'il soit répulsif. D'abord, la fonction que j'ai écrite là, c'est sinus hyperbolique à 0 R. Donc c'est une fonction qui va partir de l'origine avec une certaine courbure. Et puis quand on sort du potentiel, après B, ça devient une ligne droite. Et c'est l'extrapolation de la ligne droite qui coupe l'axe des R au point R égale A. Et on peut choisir, bien sûr, C arbitrairement. Alors, ici, un petit point que je voudrais quand même, c'est trivial, mais j'insiste dessus. L'équation qui est ici est une équation du second ordre, en second degré, donc elle dépend de deux constantes d'intégration. Il y a une constante d'intégration qui est fixée par le fait que la solution part de R en R égale 0, elle est nulle, ça c'en est une. Et la deuxième constante d'intégration, c'est que si j'ai une solution, toute solution que j'obtiens en multipliant par un coefficient de proportionnalité est une autre solution. Donc la deuxième constante d'intégration, c'est C. Donc, plutôt que de partir de là et de partir vers R égale 0, ce que je vais faire, c'est partir de R égale 0, prendre U égale 0 en ce point, U0 égale 0 en ce point, puisque c'est la condition initiale, partir avec une pente arbitraire, puisque j'ai le choix de C, et ensuite intégrer l'équation Schrödinger pas à pas, jusqu'à ce que je sorte du potentiel, et à ce moment-là, je prends la tangente à la sortie du potentiel. D'accord ? On va faire comme ça. Et si je prenais une autre constante d'intégration, par exemple deux fois plus grande, eh bien, je partirai de la même manière, comme ça, avec une pente différente, puisque j'ai choisi une pente différente. Puis je sors du potentiel, j'ai une droite. Et vous voyez, comme les deux solutions sont homothétiques, l'une par rapport à l'autre, vous voyez que les deux tangentes en ce point et en ce point coupent l'axe des R au même point, qui est R égale A. D'accord ? Donc je peux prendre n'importe quelle pente au départ. Et on voit tout de suite aussi que ce qui est important ici, c'est que la quantité qui est vraiment importante, c'est la dérivée logarithmique. C'est U'0 sur U en ce point, parce que elle ne dépend pas de la constante d'intégration C que j'ai choisie. Et c'est cette dérivée logarithmique qui va me permettre de calculer facilement le raccord des deux solutions et par suite la longueur de diffusion. Bon, ces points évidents étant précisés, J'essaie maintenant de comprendre quel va être le signe de la longueur de diffusion. Si j'ai une barrière de potentiel, pas forcément carré, quelconque, carré, positive, U2A positive, à ce moment-là, U seconde 0 sur U0, à l'intérieur de la zone d'action du potentiel, ça va être de l'ordre de U0. C'est marqué ici. Hein. Quand je fais K égale 0, j'ai U seconde de K sur UK et de l'ordre de U0. Si U0 est positif, ça veut dire que, si U est positif, ça veut dire que la courbure est positive. Ça veut dire que la concavité de la courbe est dirigée vers le haut. Donc j'ai une courbe qui est concave vers le haut, et puis qui est toujours concave vers le haut, jusqu'à ce que je sorte du potentiel. Alors il est clair que la tangente dans ce point va couper l'axe des airs en un point d'abscisse positif. Donc pour tout potentiel répulsif, ce petit raisonnement montre que la longueur de diffusion sera positive. Bon, maintenant, dans ce cas particulier, on peut la calculer explicitement. Et pour la calculer explicitement, comment je fais? Il faut que je raccorde la solution dans le puits à la solution à l'extérieur. Et pour cela, il suffit de raccorder les deux dérivées logarithmiques de la première et de la deuxième. Puisque, à ce moment-là, si j'égalise les deux fonctions au point R égale B, comme les dérivées logarithmiques sont les mêmes, les pentes seront les mêmes et les deux fonctions seront raccordées. Alors, la dérivée logarithmique de la première, c'est K0 cotangente hyperbolique, K0 sur tangente hyperbolique de K0B. Ça, c'est la dérivée logarithmique en B de cette fonction. Et la dérivée logarithmique de cette fonction en R égale B, D s'en va, bien sûr, et j'ai 1 sur B moins A. Et en égalant les deux dérivées logarithmiques, j'ai une équation qui ne dépend plus des constantes C et D, et qui me permet immédiatement de calculer A égale B, moins tangente hyperbolique de K0B sur K0. J'ai donc calculé explicitement la longueur de diffusion pour un potentiel carré, une barrière de potentiel carré, et elle est dessinée là. D'abord, à l'origine, pour K0B très très petit devant 1, je peux développer le tangente hyperbolique de x et x moins x3 sur 3, et j'ai donc b moins 1 sur K0, K0B moins K0 3, B3 sur 3. Le terme en B s'en va, il me reste K02 B3 sur 3, que je peux écrire B, que multiplie K0B au carré sur 3, et comme par hyposthèse K0B est très petit devant 1, on s'aperçoit qu'à très faible énergie, la longueur de diffusion est très petite devant la barrière. D'accord? Donc je pars avec une pente en K02 B3, et pour K0B très très grand devant 1, la tangente hyperbolique tend vers 1, K0 tend vers l'infini, puisque j'ai fait tendre, donc la longueur de diffusion tend vers B. Donc j'ai bien une longueur de diffusion constamment positive qui tend vers la largeur de la barrière de potentiel pour B très grand. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ces deux limites et faire le lien avec des approximations qu'on fait couramment. Est-ce que cette limite, ça correspond à l'approximation de Born? Est-ce que la limite K0B est très petit devant 1, ça correspond à l'approximation de Born? La réponse est oui. En effet, je vous rappelle qu'à basse énergie, la condition de validité de l'approximation de Born, c'est que la hauteur du potentiel, l'énergie potentielle maximum, est beaucoup plus grande que l'énergie cinétique de confinement de la particule dans une zone ayant pour dimension la portée du potentiel. Donc la condition de validité de Born à basse énergie, c'est V0 très petit devant H bar 2 sur M V0 carré. Or, V0, c'est encore écrit là, V0, c'est H bar 2 K0 carré sur M. Donc j'ai H bar 2 K0 carré sur M très petit devant H bar 2 sur M B0 carré, c'est-à-dire K02 très petit devant 1 sur B02. C'est donc K0B très petit devant 1. Donc la condition K0B très petit devant 1, c'est-à-dire le vecteur d'onde K0 petit devant 1 sur B, c'est également l'approximation de Born. Alors, on peut vérifier maintenant que le résultat que j'ai trouvé à basse énergie pour la longueur de diffusion coïncide avec celui que nous avons dérivé la semaine dernière dans le cadre de l'approximation de Born. Nous avons vu la semaine dernière que dans le cadre de l'approximation de Born, l'amplitude de diffusion à bord est tout simplement un coefficient m sur 4 pi h bar 2, l'intégrale dans tout l'espace du potentiel. Ça, c'était le résultat perturbatif. Or, qu'est-ce que c'est que l'intégrale dans tout l'espace du potentiel? Comme V ne dépend que de R, c'est 4 pi r 2, V de R, dr, somme de 0 à l'infini. Et dans ce cas particulier, comme il n'est égal à V0 de 0, entre 0 et V0, c'est somme de 0 à B, les 4 pi s'en vont, donc c'est MV0 sur H bar 2, somme de R de dr, et cette intégrale me donne tout de suite K02 B3 sur 3. Donc je retrouve, à partir du calcul exact, à la limite K0 de B très petit devant 1, je retrouve l'expression que me donne la théorie de l'approximation de Bohr. Regardons maintenant la limite K0B très très grand devant 1. À ce moment-là, A tend vers B. Et qu'est-ce qui se passe quand K0B est très très grand devant 1? Ça veut dire que la hauteur de la barrière est de plus en plus élevée. Et à la limite où elle devient infinie, la particule ne peut plus du tout rentrer dans la région R inférieure à B. Donc la fonction d'onde de la particule est 0 entre 0 et B. Et puis linéaire quand je suis en dehors du puits puisque je suis à l'énergie nulle. C'est ce qu'on appelle une sphère dure. Une sphère dure, c'est un potentiel infiniment répulsif placé en R égale B, empêchant la particule de descendre en dessous de R égale B. Et si je prends la fonction en rouge, qui est la fonction prolongée, normalisée à 1 pour R égale 0, elle est donc nécessairement de la forme 1 moins R sur B puisque B égale A, et la fonction U0 de R radial, d'énergie nulle, dans ce cas-là, elle est nulle entre 0 et B, et elle coïncide avec la fonction prolongée en dehors. Je vais représenter ici en violet. Et dans ce cas particulier, je peux calculer très simplement la portée effective. RE, qui est 2 sommes de 0 à l'infini de R, dr, V0 carré moins U0 carré, et un calcul d'intégrale très simple, me donne à ce moment-là que la portée effective, c'est 2B sur 3. Et je vais faire ça à ce moment-là, concrètement, que la portée effective, dans ce cas-là, c'est de l'ordre de grandeur, un facteur 2 tiers près, à la portée du potentiel. Voilà donc, entièrement étudié la... le cas d'une barrière carrée, et je vais maintenant, donc je vais utiliser ce rétro. Et je vais écrire là-bas pour... Alors maintenant je vais prendre le puits de potentiel carré. Qui est comme ceci maintenant, R. Moins V0B, la même notation V0 égale H bar 2 K0 carré sur 2L. Et les équations vont être tout à fait semblables. U seconde K de R plus K2. La seule différence, c'est que je vais avoir plus K02, moins K02 ici, je vais avoir plus K02. K de R égale 0 pour R inférieur à B. Ici, U seconde K de R plus K2 UK de R égale 0 pour R supérieur à B. UK de 0 égale 0. Et dans le cas particulier K égale 0, quand je fais K égale 0 ici, j'aurai U seconde K plus K02 UK. Au lieu d'avoir un sinus hyperbolique, je vais avoir maintenant un sinus. Donc je vais avoir U0 de R égale C sinus K0R pour R inférieur à V. Et D R moins A pour R supérieur à B. Bon, alors maintenant... Maintenant, nous allons voir que la situation est complètement différente. Et qu'on a quelque chose maintenant qui va dépendre de manière critique de la profondeur du puits de potentiel. Et bien pour cela, il suffit de le même argument que tout à l'heure, au lieu de dire qu'au début la concavité est dirigée vers le haut, maintenant la concavité va être dirigée vers le bas. Et qui plus est, maintenant, au lieu d'avoir une fonction monotone comme le sinus hyperbolique, je vais avoir une fonction oscillante. Et je sais bien que dans un puits de potentiel, profond, par exemple l'approximation WKV, me donne des fonctions d'onde oscillantes avec une longueur d'onde qui est la longueur d'onde de De Broglie locale dans le puits de potentiel. Donc maintenant, je vais avoir quelque chose qui oscille. Et ça, c'est très important. Ça va conduire à des résultats complètement différents pour la longueur de diffusion. J'ai essayé ici, sur ce transparent, de comprendre ce qui se passe dans le cas du puits carré quand on augmente K0. D'abord, K0B plus petit que pi sur 2. En B, la sinusoïde a juste commencé, elle n'a pas atteint son maximum. Donc la concavité est toujours dirigée vers le bas, et par conséquent, la pente qui est ici est négative, et on voit très clairement que l'intersection avec l'axe des airs va être négative, la longueur de diffusion est négative. Puis au fur et à mesure que j'augmente K0B, la sinusoïde va se rapprocher de son maximum, et quand j'arrive à pi sur 2 moins epsilon, très légèrement avant pi sur 2, elle est quasi horizontale, la pente, mais légèrement positive encore, et vous voyez que la longueur de diffusion va tendre vers moins l'infini. Donc quand j'approche de pi sur 2 par valeur inférieure, la longueur de diffusion est négative et tend vers moins l'infini. Si je dépasse maintenant très légèrement pi sur 2 plus epsilon, maintenant la concavité est toujours dirigée vers le bas, la pente maintenant est légèrement négative, et ça veut dire que la longueur de diffusion va passer brusquement de moins l'infini à plus l'infini. Et vous voyez donc que bien que le potentiel soit négatif, la longueur de diffusion peut être positive. Donc il n'y a aucune relation précise, universelle, entre le signe du potentiel et la longueur de diffusion. Et puis ainsi de suite, à ce moment-là, la pente va diminuer, elle va passer de plus l'infini, elle va diminuer. Et puis vous voyez que si j'arrive à 3 pi sur 2, de nouveau j'ai une pente horizontale là, et si j'ai à 3 pi sur 2 moins epsilon, de nouveau la pente va être légèrement négative, oui, et la longueur de diffusion va être moins infinie. Et puis dès que je vais passer à 3 pi sur 2 plus epsilon, elle va être de nouveau plus infinie. Donc vous voyez que la longueur de diffusion varie de manière considérable, et elle devient égale à plus ou moins infini au voisinage des points où la sinusoïde a une pente nulle, c'est-à-dire des points n plus 1,5 de pi. Npi plus pi sur 2, où n égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ceci peut se calculer exactement. Si j'égale les deux dérivés logarithmiques de ces deux quantités-là, je vais avoir K0 sur tangente KB, dérivé logarithmique de cette quantité, égale 1 sur V moins 1, dérivé logarithmique de l'autre quantité, et j'obtiens A égale B, moins, ça ressemble tout à fait à celle-là, mais au lieu d'une tangente hyperbolique, j'ai maintenant une tangente de K0V sur K0. Et comme je le sais bien, la tangente peut devenir infinie, et j'ai représenté ici les variations de la longueur de diffusion avec K0B. Vous voyez qu'elle part de 0. Le démarrage ressemble beaucoup à ce qui se passait tout à l'heure. Et pour K0B plus petit que 1, en développant la tangente, on peut montrer que la longueur de diffusion, c'est A égale moins K02B3 sur 3, et que ça coïncide avec l'expression de l'approximation de Born. Elle tend vers moins l'infini, puis elle part de plus l'infini. Elle redescend. Elle s'annule en ce point. Alors ce point est intéressant, quand la longueur de diffusion s'annule, ça veut dire qu'à énergie nulle, le déphasage s'annule, ça veut dire que la section efficace est nulle, et on a donc pour une valeur de K non nulle, une section efficace nulle, c'est ce qu'on appelle l'effet Ramsauer. Puis de nouveau, la section efficace tend vers moins l'infini, et ainsi de suite, et on obtient quelque chose comme ça, et quand K0 est très très grand, ces courbes deviennent de plus en plus écrasées ici, et on a quelque chose qui est pratiquement égal à B, sauf au point de divergence. Alors vous voyez, ceci nous montre déjà que si le puits de potentiel est extrêmement profond, ça va être très difficile de calculer exactement la longueur de diffusion, parce que la moindre erreur sur le potentiel va changer le déphasage de la fonction U0 avant qu'elle sorte du puits, et va donner quelque chose qui va être compris entre moins l'infini et plus l'infini. Et il faut bien voir que ceci n'est pas limité au potentiel carré très simple que je viens de prendre. Le prochain transparent que je vous montre est le résultat d'un calcul numérique d'un potentiel de Van der Waals tronqué un potentiel de Van der Waals tronqué, c'est un potentiel qui est en moins C6 sur R6 à grande distance et qui, à une certaine distance RC, devient une barrière infiniment répulsive. On choisit RC pour que que RC coïncide avec le minimum, l'abscisse du minimum de la vraie courbe de Van der Waals. Alors, quand on calcule la section efficace avec ce potentiel et l'amplitude de diffusion, je prends ce résultat d'un cours de Jean Dalibard à l'école de Varenna de je crois, juillet dernier. On trouve ce résultat pour la longueur de diffusion en fonction du coefficient C6. Vous voyez que si on prend un coefficient C6 ayant une certaine valeur, et si on le fait varier en valeur relative de 4%, qui n'est pas beaucoup, vous voyez qu'on passe de là à là. Il suffit de faire varier C6 de 1 à 2% pour obtenir des variations de la longueur de diffusion absolument gigantesques. Donc dès qu'un potentiel est très profond, c'est très difficile de calculer théoriquement la longueur de diffusion et on peut faire des erreurs considérables. Et à ce moment-là, extrêmement sensible à la forme du potentiel, mais on comprend pourquoi, c'est que si on prend la technique que je vous disais tout à l'heure, partir de zéro et puis suivre la fonction d'onde jusqu'à ce qu'on sorte du puits, on voit très bien que ça va dépendre du nombre d'oscillations qu'on fait dans le puits, le signe et la valeur de la longueur de diffusion. Alors maintenant, j'en arrive à un résultat très important, c'est quand la longueur d'onde de diffusion, quand la longueur de diffusion devient infinie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un état lié qui est apparu dans le puits? Est-ce que quand je descends progressivement, j'augmente progressivement la profondeur du puits, il est bien évident que je vais avoir des états liés dans le puits. Est-ce que les divergences de la longueur de diffusion coïncident avec l'apparition d'états liés dans le puits? Ça, c'est une question importante. Et maintenant, on va essayer d'y répondre. On va essayer de faire le lien avec les états liés. J'ai besoin de cela, donc je vais revenir ici. Il faut vraiment faire de la gymnastique aujourd'hui. Bien. Je vais donc maintenant m'intéresser aux états liés dans le puits. Alors, j'ai toujours le puits de potentiel qui est dessiné là-bas, mais maintenant, je m'intéresse à des solutions d'énergie négative. Et j'appelle comme... La dernière fois, j'appelle l'énergie de liaison et égale moins l'énergie négative H bar 2, kappa 2, sur 2 mu, égale moins H bar 2, K2 sur M, moins l'énergie de l'état lié. À ce moment-là, à quoi ressemble l'équation de satisfaite par la fonction radiale? Elle est marquée là-bas. La seule différence, K02 n'a pas changé. La seule différence, c'est qu'il faut remplacer K2 par moins kappa2. Je vais donc avoir une seconde kappa de R plus K02 moins kappa2 U kappa de R égale 0 pour R supérieur à B. Et pour R inférieur à B, j'ai une seconde kappa de R plus moins kappa 2 u kappa de r égale 0 pour r supérieur à b. Enfin, ça c'est r inférieur à b, et là c'est r supérieur à b. Voilà les équations différentielles, avec maintenant les conditions limites, c'est u kappa de 0 égale 0, comme tout à l'heure. Maintenant il faut que j'ajoute quelque chose, parce que pour r supérieur à b, la solution de cette équation, c'est une superposition linéaire de e puissance plus kappa r et de e puissance moins kappa r. Pour avoir un état lié, il faut qu'il soit normalisable et je ne dois pas avoir de terme en e puissance plus kappa r. Donc, je ne dois chercher des solutions qui, après raccord entre ce qui se passe dans le puits et ce qui se passe à l'extérieur du puits, ne contiennent que le terme en e puissance moins kappa r et à l'extérieur, c'est-à-dire que je prends u kappa de r pour r tendant vers l'infini, doit se comporter comme une puissance moins kappa r. Bien, alors, je peux maintenant calculer une solution. À l'intérieur, la solution de cette équation ici, à l'intérieur, ça va me donner u kappa de r va être égal à c. K02 moins kappa 2 est positif, parce que je suppose que les états liés, leur énergie est inférieure à la profondeur du puits. Je ne peux pas avoir des états liés d'énergie inférieure à moins K02. Donc j'aurai C sinus racine de K02 moins K2. R, ça c'est pour R inférieur à B. Et pour R supérieur à B, je vais avoir U kappa de R égale D de puissance moins kappa R pour R supérieur à B. Alors évidemment, ces solutions doivent se raccorder, sinon elles ne sont pas acceptables, et le raccord est obtenu en égalant la dérivée logarithmique, et j'obtiens, alors je vais poser qui égale racine de K02 moins K2, et j'obtiens la dérivée logarithmique de ceci, ça va me donner qui sur tangente de qui B égale la dérivée de logarithmique de ceci, ça va me donner moins kappa. J'obtiens donc une première équation que je vais mettre quelque part, ici. Cotangente. Cotangente de qui B égale moins K sur qui. Comme K et qui sont positifs, on voit que la cotangente de qui B est nécessairement négative. Hein. Alors, j'élève au carré cette quantité, et je prends 1 plus cotangente carré qui B, j'obtiens 1 plus cotangente carré qui B égale 1 plus kappa 2 sur qui 2. Donc je laisse cette quantité au carré, j'ajoute 1 des deux côtés, et 1 plus K2 sur qui 2, c'est qui 2 plus K2, et qui 2 plus K2, c'est K02 moins K2 plus K2, c'est K02 sur qui 2. Et 1 plus cotangente carré qui B, c'est 1 sur sinus carré qui B. J'en déduis donc que sinus carré qui B égale qui sur K0, c'est-à-dire en prenant la racine carrée, ça c'est la deuxième fonction que je vais prendre, sinus qui B égale, quand je prends la racine carrée de sinus carré qui B égale K0 carré sur K2, j'aurai donc plus ou moins qui B, que multiplie 1 sur K0B. Donc, les valeurs de kappa sont les valeurs de qui, données par cette équation, telles que sinus qui B égale plus ou moins qui B, d'ailleurs le plus ou moins je peux le mettre ici, plus ou moins sinus qui B égale qui B sur K0B, avec la condition que cotangente qui B égale moins kappa sur qui. Alors, je vais vous montrer maintenant que la résolution de ces deux équations peut se faire graphiquement, très simplement, et permet de comprendre ce qui se passe quand les états liés apparaissent. Donc, je reviens transparent là. Oui. Donc, je rappelle que il faut que je trouve des solutions de l'équation plus ou moins sinus qui B égale 1 sur K0B qui B, ou qui est donné par racine de K02 moins K2, avec la condition que le cotangent de qui B doit être négatif. D'accord? Alors, j'ai tracé ici les deux sinusoïdes, plus sinus qui B et moins sinus qui B, en fonction de qui B. Elles partent de 0, elles sont d'abord symétriques l'une par rapport à l'autre par rapport à l'axe des X. Ça c'est sinus qui B, ça c'est moins sinus qui B, elles s'annulent en pi, 2 pi, 3 pi, elles sont maximum en pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, et elles valent à ce moment-là plus 1 ou moins 1, j'appelle K1, K2, K3 ces points, et vous remarquez que cette sinusoïde, elle est en très pointillée quelque part et en très pleine d'autre part, elle est en très pleine dans les régions pi sur 2 pi, 3 pi sur 2, 2 pi, où cotangente est négatif. Je ne peux utiliser donc cette fonction que dans les régions de variation de qui B où la cotangente de qui B est négative. Il ne faut pas que j'oublie que je dois avoir cotangente de qui B négative. Donc le point représentatif de mon problème doit se trouver sur les parties pleines de ces deux sinusoïdes. D'accord? Et il doit aussi se trouver sur la courbe QB, qui est une droite dans la représentation QB ici, dont la pente est 1 sur K0P. Donc je prends cette courbe. Et je prends la droite, donc 1 sur K0B qui B, qui est une droite de pente 1 sur K0B, et cette droite coupe l'ordonnée 1 quand qui B égale K0B, donc elle coupe la droite plus 1 ici en un point P dont l'abscisse est K0B. Donc qu'est-ce que je fais pour trouver les états liés? Je dessine mes deux sinusoïdes, les traits pleins, qui correspondent à la cotangente de KB négatif. Je me donne la profondeur du puits, c'est-à-dire que je me donne ce point-là, P, qui a pour abscisse K0B et ordonnée 1. Je trace la droite en rouge ici, et je prends l'intersection de cette droite en rouge avec les parties pleines de la sinusoïde. Vous voyez que dans ce cas particulier, pour K0B compris en 3π sur 2 et 2π, j'ai deux intersections, c'est-à-dire que j'ai deux états liés dans le puits. D'accord? Et à ce moment-là, on peut comprendre très clairement ce qui se passe quand j'augmente progressivement la profondeur du puits. Si je prends un puits très peu profond, K0B très petit, K0B plus petit que pi sur 2, ma droite va être comme ça. Elle ne coupe aucune partie pleine. Je n'ai donc aucun état lié. Puis je fais passer mon point P. Quand j'arrive au point K1, juste avant le point K1, je n'ai toujours pas d'état lié. Mais juste après, je vais avoir un état lié qui va être pratiquement confondu avec, dont l'abscisse va être pratiquement confondue avec l'abscisse de K1. Et je n'aurai qu'un état lié. Puis je continue à augmenter K0, l'énergie, l'abscisse du point, de ce point-là va aller de plus en plus vers la droite, jusqu'à ce que K0B devienne très voisin de 3π sur 2. Tant qu'il est inférieur, il n'y a pas d'intersection nouvelle. Dès qu'il est légèrement supérieur à 3π sur 2, il y a une intersection nouvelle. Donc vous voyez que chaque fois que K0B atteint l'une de ses valeurs, n plus 1 demi, nπ plus π sur 2 correspondant à une divergence de la longueur de diffusion, chaque fois il apparaît un état lié. Mais il apparaît un état lié quand K0B est très légèrement supérieur à l'une de ses valeurs. Et à ce moment-là, la longueur de diffusion est infiniment grande et positive. Donc on voit que quand la longueur d'onde de diffusion, quand la longueur de diffusion est infinie, très très grande et positive, ça veut dire qu'il y a un état lié qui vient juste d'apparaître dans le puits. Et quand la longueur d'onde est très grande et négative, il n'y a pas d'état lié, mais il suffirait que je remonte un tout petit peu la profondeur du puits pour qu'il apparaisse un état lié. D'accord? Donc on s'aperçoit que les états, les divergences de la longueur de diffusion correspondent à l'apparition d'état liés dans le puits, et on parle soit d'état lié réel, si un état lié vient juste d'apparaître et que la longueur de diffusion est infiniment grande et positive, soit d'un état lié virtuel, ça ne veut pas dire grand-chose, il n'y a pas d'état lié, mais il y aurait un état lié si on augmentait la profondeur du puits d'une quantité infiniment petite. Donc on parle d'un état lié réel ou virtuel. Donc ça c'est un résultat très important. Et on s'aperçoit à ce moment-là, on se dit que si on est très légèrement au-dessus d'une de ces valeurs de divergence, j'ai un état lié très faiblement lié, donc kappa est tout petit, donc et puissance moins kappa de R est une exponentielle qui a une portée xi 1 sur kappa très grande, et comme je vous l'ai démontré la semaine dernière, la longueur de diffusion, ce n'est rien d'autre à ce moment-là que xi. Donc les longueurs de diffusion très grandes et positives, ce n'est rien d'autre que le 1 sur kappa qui apparaît dans la queue de la fonction d'onde des états liés qui viennent d'apparaître à ce moment-là. Et à ce moment-là, je prétends qu'on peut calculer très simplement l'énergie de l'état lié à partir de cette construction géométrique que je viens de donner, et on peut aussi la calculer en utilisant les résultats du cours précédent. En effet, au voisinage, une longueur de divergence, la divergence est atteinte pour les valeurs de K0 que j'appelle K0 tilde, K0n tilde b, telles que K0n tilde b égale n plus 1 demi de pi. Ça, c'est une valeur de divergence. Pour K0b très voisin de K0nb, on peut écrire a, qui est encore marqué ici, a égale b moins tangente de K0b sur K0, qui est a égale b moins 1 sur K0 sinus K0b sur cosinus K0b. On peut développer sinus K0b et cosinus K0b autour de la valeur K0 NB, qui est égal à n plus 1/2 de pi. Sinus est de l'ordre de 1 et cosinus est de l'ordre de 0. En faisant le développement limité, on trouve que A égale B plus 1 sur K0 qui multiplie K0B moins K0 N tilde de B. Donc, on voit bien que quand K0B se rapproche de K0 N tilde de B, ceci devient tout petit, ce terme devient très grand devant celui-là, on peut négliger celui-là, et on trouve que A à ce moment-là est de l'ordre de 0 n tilde b k0 moins k0 n, c'est-à-dire 1 sur n plus 1/2 de pi, k0 moins k0 n tilde. Donc j'ai trouvé la longueur de diffusion en fonction de l'écart du point P, en fonction de l'écart de la tige du point P. La longueur de diffusion est inversement proportionnelle à l'écart entre la tige de ce point et la tige du point de divergence k2. Alors, j'utilise maintenant les résultats du cours précédent qui me disent qu'au voisinage d'une, quand il y a un état très faiblement lié, l'extension spatiale xi de l'état lié de l'ordre de A, donc j'ai xi de l'ordre de A égale 1 sur n plus 1/2 pi k0 moins k0 n tilde A, et l'énergie de l'état lié, c'est moins h bar 2 k2 sur n, c'est moins h bar 2 sur n xi 2, et remplaçant A par cette valeur, j'obtiens une expression approchée, mais très précise, de l'énergie de l'état lié. Et vous pouvez vérifier, je l'ai fait personnellement, vous pouvez vérifier qu'on obtient ici les mêmes résultats qu'en prenant revenant à la construction géométrique et en calculant de manière perturbative l'intersection de la droite avec la sinusoïde, au voisinage d'un maximum de la sinusoïde. Autre chose que je voulais vous indiquer, c'est que on peut calculer très simplement la portée effective au voisinage d'une résonance. En effet, au voisinage d'une résonance, et qu'on est exactement en résonance, la sinusoïde oscille et atteint un maximum à l'extrémité du puits, donc sa tangente à ce moment-là est horizontale, et avec la normalisation que j'ai choisie pour V0, V0 qui est une horizontale, cette tangente est égale à 1. Donc avec la normalisation choisie pour V0, égale à 1 pour R égale 0, j'ai une horizontale ici, et la fonction non prolongée, la fonction radiale, U0, est une sinusoïde qui oscille entre 0 et 1, et qui atteint la valeur maximale à l'extrémité du puits. À ce moment-là, R qui est 2 fois somme de V0 carré moins U0 carré, c'est très facile à calculer, l'intégrale de V0 carré, c'est 1, donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à B de 1, c'est 2B, et l'intégrale du sinus carré, comme j'ai un nombre entier de fois, la période est double, c'est 1/2, donc j'ai moins b sur 2, et je m'aperçois qu'à résonance, la portée effective est de l'ordre de b, est égale à b. Et vous voyez que sur ce cas précis, quand on est près d'une résonance, la portée effective est de l'ordre de b, alors que la longueur de diffusion est très très grande devant 1, donc au voisinage d'une résonance, on peut négliger les termes venant de la portée effective, parce que la portée effective est beaucoup plus petite que la longueur de diffusion. Bon, maintenant je peux passer à une idée suivante. Jusqu'à présent, j'ai étudié ce qui se passait à énergie nulle, mais je peux très bien étudier maintenant ce qui se passe à énergie non nulle. Alors, je ferme la parenthèse sur les états liés, je reviens donc au problème qui est ici, qui est le puits carré. Et je me pose la question, comment varie le déphasage avec l'énergie? Comment varie le déphasage et par suite comment varie la section efficace avec l'énergie dans un puits carré? Dans ce cas, on peut faire une réponse analytique. En effet, alors c'est encore ici, je crois. Vous avez les équations ici. Ces équations s'intègrent sans problème. Et j'obtiens donc à l'intérieur du puits, quand k est différent de 0, j'ai d sinus carré de racine de k2 plus k0 carré r pour r inférieur à b. À l'extérieur du puits, par définition, j'ai d sinus de kr plus delta 0 de k, où delta 0 de k est le déphasage dans l'onde s. Je raccorde les deux solutions en r égale b en égalant les dérivées logarithmiques. Et j'obtiens donc racine de k2 plus k02 sur tangente de racine de k02 plus k2b égale la dérivée logarithmique de ceci, qui est k sur tangente de kb plus delta 0 de k. Donc c'est une équation qui me donne delta 0 de k, et à partir de cette équation, on trouve que delta 0 de k égale moins kb plus arc tangente de k sur racine de k2 plus k02, tangente de racine de k2 plus k02 de b. Et à partir de cette formule, on peut calculer avec un micro-ordinateur, on peut calculer la variation de delta 0 de K avec K. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais trouvé une formule approchée qui est que tangent delta 0 de K égale moins AK moins 1/2 de RE à 2K3, que j'ai effacé là parce que j'ai besoin du tableau là-bas, mais elle était marquée tout à l'heure, et que tangent delta 0 de K en fonction de K part avec une pente positive pour A négatif et une négative pour A positive. Et puis le terme suivant, c'est un terme qui va me donner un terme de courbure, un A2K3. Et si on prolonge hardiment cette solution, ce qu'on n'a pas le droit de faire, elle n'est valable que pour K très petit, on s'aperçoit que quand delta 0 de K peut s'annuler. Et en fait, en reprenant cette formule qui est exacte, elle, et en la calculant sur un micro-ordinateur, on trouve bien que c'est le cas. Donc si on travaille à K0 fixé et qu'on varie l'énergie de la particule, le déphasage peut s'annuler pour certaines valeurs de K. Et là encore, je vais redonner un résultat qui est contenu dans l'article des notes de cours de Jean Dalibard à Varena pour un potentiel de van der Waals tronqué pour une longueur de diffusion négative en fonction de K ici. La section efficace qui est proportionnelle à sinus carré de delta 0, donc qui s'annule quand delta 0 est nu. Vous voyez que la section efficace ici comprend une longueur de diffusion négative et qu'on augmente l'énergie, elle décroît, elle tend vers 0 ici en échelle logarithmique, puis elle recroît de nouveau. Ce qui veut dire que quand on a une longueur de diffusion négative et qu'on augmente l'énergie, la section efficace peut diminuer, s'annuler, puis remonter, et ça c'est catastrophique. Ça c'est catastrophique quand on fait du refroidissement évaporatif, parce que si on part d'un K élevé, on a besoin des collisions élastiques pour refroidir de manière évaporative, et si la vitesse des collisions élastiques diminue et s'annule, à ce moment-là, le refroidissement évaporatif s'arrête. Et apparemment, c'est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est ce qui se passe pour le rubidium 85. Bon, il y a enfin un dernier point que je voulais aborder avant de quitter le puits carré, qui est un point important. Jusqu'à présent, je me suis toujours occupé des raccordements en B, en R égale B, et je ne me suis pas intéressé du tout à l'amplitude de la fonction d'onde dans le puits comparée à l'amplitude de la fonction d'onde hors du puits. Et ça, c'est pourtant une question importante. Est-ce que la probabilité de présence de la particule dans le puits est importante comparée à la probabilité de présence hors du puits? D'accord? Donc, il est intéressant de comparer les coefficients les coefficients du sinus ou à l'intérieur et à l'extérieur. Alors c'est cette question que je voudrais maintenant regarder d'un peu plus près. Voilà, je reviens à une particule, donc dans un puits carré, avec un K différent de 0. Et c'est les formules que je viens d'écrire. À l'intérieur du puits, c'est C sinus de racine de K02 plus K2R, à l'intérieur du puits. À l'extérieur du puits, c'est D fois un sinus de KR plus delta 0 de K pour R supérieur à B. Alors, je vais prendre D égale 1. Autrement dit, je vais prendre à l'extérieur du puits une sinusoïde d'amplitude 1. Et je vais comparer à ce 1 l'amplitude de la sinusoïde à l'intérieur du puits. Autrement dit, je vais calculer C en choisissant D égale 1 à l'extérieur du puits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais calculer si la fonction d'onde dans le puits, qui est une sinusoïde d'amplitude beaucoup plus grande, beaucoup plus petite que la sinusoïde à l'extérieur du puits. Bon, alors, à ce moment-là, je ne peux plus me contenter d'égaler les dérivées logarithmiques. Maintenant, je vais égaler les fonctions d'onde et leurs dérivées en R égale B. Alors, raccord en R égale B, égalité de deux fonctions d'onde en R égale B, j'ai donc sinus KB plus delta 0 de K, égale C sinus de racine de K02 plus K2 fois B. Égalité des dérivés, la dérivée de ça, ça va me donner un K cosinus de KB plus delta 0 de K. La dérivée de ça, c'est racine de K02 plus K2 cosinus, racine de K02 plus K2, C cosinus de racine de K02 plus K2, B. Je divise la deuxième équation par K, j'élève au carré et j'ajoute les deux équations, sinus carré de ceci plus cosinus carré de ceci, c'est 1, j'aurai donc 1 égale C2, que multiplie ce sinus carré, plus 1 sur K2, le coefficient de C qui est ici, donc plus K02 plus K2 sur K2, cosinus carré de K0, racine de K02 plus K2B. Alors, 4,2 sur 4,2, ça me fait un 1 ici. Sinus carré plus cosinus carré, ça me fait un 1 ici. J'obtiens 1 égale C2. 1 plus K0,2 sur K2, cosinus carré de racine de K0,2 plus K2B. C'est-à-dire encore, C2 égale K2 sur K2 plus K0,2, cosinus carré de racine de K0,2 plus K2B. Alors, je suppose maintenant que je suis à énergie très faible, donc K est tout petit. Et je suppose que je suis loin d'un point de divergence. Donc K0 est très différent de K0n, qui est n plus 1,5 de pi. À ce moment-là, le cosinus carré qui est en bas, comme K est tout petit, et comme je ne suis pas sur un 0 de cosinus carré, ça va être de l'ordre de grandeur de K02 à un coefficient de l'ordre de 1 près. Et comme j'ai supposé K2 très petit devant K02, vous voyez que le dénominateur va être en K02, le numérateur est en K2, donc C2 va être de l'ordre de K2 sur K02, C2 va être tout petit. Donc, tant que je ne suis pas au voisinage d'une résonance, la sinusoïde à l'intérieur est très petite devant la sinusoïde à l'extérieur. Donc, si je... La fonction d'onde ressemble à ça. Si par contre, je suis au voisinage d'une résonance, si K0 égale K0n, si ce cosinus-là s'annule, à ce moment-là, j'ai K2 sur K2 et j'ai l'ordre de 1. Autrement dit, la fonction d'onde à l'intérieur a une amplitude toujours inférieure à l'amplitude à l'extérieur, à la fonction d'onde à l'extérieur, mais elle peut devenir du même ordre quand on est près d'une résonance, c'est-à-dire quand un étalier est apparu dans le puits. Ça veut dire que quand la longueur de diffusion devient très importante, la probabilité que la particule soit dans le puits à ce moment-là est importante. Et ça, ça a une signification importante, une signification, des conséquences importantes, parce que on est content d'avoir une longueur de diffusion importante, parce que ça veut dire que les collisions élastiques sont très efficaces. La section efficace de 8π à 2 devient très grande quand A est important. Mais si les particules restent très proches l'une de l'autre avec une probabilité importante, à ce moment-là, les autres interactions peuvent entrer en lieu. Il peut y avoir des interactions spin-spin, des interactions magnétiques, des interactions d'échange qui font basculer le spin de la particule, le font passer dans un état qui n'est pas piégeant, et à ce moment-là, ça devient important aussi pour les collisions inélastiques. Autrement dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas avoir des collisions élastiques très importantes et en même temps avoir des collisions inélastiques négligeables. Quand les collisions élastiques deviennent importantes, les collisions inélastiques aussi, et nous aurons tout à l'heure d'ailleurs un exemple important de cette situation dans le séminaire de Johannes qui va nous parler des collisions dans le césium, et c'est en fait ce phénomène qui empêche d'atteindre le seuil de condensation pour le césium. Enfin, j'arrive maintenant à la dernière partie de ce cours, qui est le... Je reviens maintenant à... un puits quelconque, et je vous rappelle l'expression que j'ai démontrée la semaine dernière, qui est une expression très importante, peut-être le résultat le plus important de du cours précédent, qui est l'amplitude de diffusion au voisinage de K égale 0. Nous avons vu la semaine dernière qu'au voisinage de K égale 0, l'amplitude de diffusion c'est moins A sur 1 plus IKA, moins 1,5 de K2 ARE. L'exemple que nous avons étudié aujourd'hui montre que, au voisinage de l'apparition d'un étalier dans le puits, dans un puits de potentiel quelconque, A devient très important. Et j'ai calculé un ordre de grandeur de RE pour le puits carré, et j'ai trouvé que RE était de l'ordre de B0. Donc, au voisinage d'une divergence de A, RE devient très petit devant A, et on peut négliger, donc, on peut complètement négliger ce terme en K2 A sur RE. Si on fait monter au numérateur en faisant un développement en série, le terme en K2 A2 va être beaucoup plus grand que le terme en K2 ARE. Donc je peux complètement négliger ce terme. Par contre, si A est très grand, KA peut être aussi bien grand que petit, parce que je peux être encore à une température pas suffisamment froide pour que KA soit plus petit que 1. Donc, quand je suis au voisinage de l'apparition d'une divergence dans A, je peux écrire f de k égale moins 1, moins a sur 1 plus ika, mais je ne néglige pas ika au dénominateur en bas, parce que je peux ne pas être suffisamment froid pour que k soit petit devant 1. Et à ce moment-là, f de k à la fois moins a sur 1 plus ika, et la section efficace totale, qui est 8 pi f2 module, c'est 8 pi à 2 sur 1 plus k2 à 2. D'ailleurs, à 2 k2, je peux l'écrire. À 2, vous rappelez que c'est xi. Je peux l'écrire au tableau. À 2 k2, voici une d'une divergence. C'est de l'ordre de xi 2 k2, puisque a est de l'ordre de xi. C'est donc de l'ordre de k2 sur kappa 2. Et en multipliant O t bas par h bar 2 sur m, h bar 2 k2 sur m, c'est l'énergie de la particule, et h bar 2 kappa 2 sur m, c'est le module de l'énergie de l'état lié. Donc, la section efficace au voisinage d'une divergence de A, je peux l'écrire 8 pi à 2 sur 1 plus l'énergie divisée par le module de l'énergie de l'état lié. C'est-à-dire que si je trace sigma total en fonction de k, j'ai une section efficace qui atteint 8 pi à 2 pour k égale 0, puis qui décroît maintenant que je peux voir concrètement la décroissance de la section efficace de diffusion, et elle décroît avec une échelle qui est de l'ordre de 1 sur a. Si j'avais porté, au lieu de k, k2 d'énergie, j'aurais trouvé une résonance à énergie nulle dont la largeur... Attention, la résonance n'est pas centrée en e lié. La résonance est centrée en e égale 0. C'est 1 plus e sur le maximum de la section efficace pour e égale 0. C'est la largeur de la résonance qui est de l'ordre de grandeur de l'énergie des alliés. C'est 1 plus E sur E lié. Alors là encore, ce phénomène est très important. Il se produit dans le césium, et nous en aurons un exemple tout à l'heure. Donc, j'en ai fini avec ce rapide survol en deux séances des collisions ultra-froides et de la longueur de diffusion. Le vrai problème est encore plus compliqué quand on a plusieurs niveaux et qu'on veut calculer les choses en détail, mais j'ai introduit les notions essentielles. Et la semaine prochaine, je passerai à un autre problème très important qui est, est-ce qu'on peut remplacer le potentiel réel d'interaction entre deux atomes, est-ce qu'on peut le remplacer par un potentiel modèle, beaucoup plus simple mathématiquement, pour pouvoir faire des calculs et obtenir des expressions analytiques, mais qui reproduise au mieux la physique du vrai potentiel, quand les atomes sont suffisamment éloignés les uns des autres, c'est-à-dire peut-on trouver un modèle de potentiel permettant de faire des calculs analytiques, mais en même temps donnant la même longueur de diffusion et peut-être, pourquoi pas, la même portée effective que le vrai potentiel. Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, il décrira correctement les phénomènes de collision et en particulier les déplacements des niveaux d'énergie du spectre positif. Donc, la semaine prochaine, j'aborderai le pseudo-potentiel qui sera ensuite important pour établir l'équation de Gross-Pitaïevski.